Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Bonjour Fab Caro et Fabrice Caro, puisqu'on est là pour deux livres, l'un signé Fabrice Caro, l'autre Fab Caro, on aura l'occasion d'en parler. Merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui.
On est venus tous les deux.
Les deux sont venus, les deux sont avec nous. Alors on ne va pas parler de Zai 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 Zai, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer, mais on va parler spécifiquement de ces deux livres qui viennent de sortir, qui sont d'ailleurs assez différents, mais qui font assez bien le tour de ton œuvre et de ce que, la direction que tu veux donner à ton œuvre aujourd'hui. Le premier, je voulais qu'on commence par ça, parce que c'est quand même celui qui attire l'œil lorsqu'on le voit, c'est Guacamole Vaudou, ce roman photo, avec Eric Judor, co-réalisé, entre guillemets. Eric Judor joue le rôle principal, mais il a signé la co-réalisation de ce livre. D'abord, j'ai envie que tu nous racontes comment, en 2022, on se dit « je vais faire un roman photo ». C'est-à-dire qu'on serait dans les années 50, 60, 70, pourquoi pas. Alors, il y a un retour de hype, comme on dit, un retour de mode sur le roman photo, mais comment tu te retrouves sur ce projet et qu'est-ce qui fait que tu te dis « ok, j'y vais ».
Bah déjà, je suis un petit peu vieux, donc c'est un petit peu ma culture. Non, moi, le roman photo, je ne suis pas fan à la base. C'est plus... moi, je voyais traîner ça chez ma grand-mère quand j'étais petit. C'était nous deux à l'époque, ouais. Je crois. Donc, à l'époque, c'était très premier degré. C'était des histoires d'amour, des bouillottes. Et comment j'y suis revenu? J'y suis revenu une première fois à l'époque d'une BD que j'ai fait chez Six Pieds Sous Terre qui s'appelle « Et si l'amour s'était aimé ?». Et j'avais envie de raconter une histoire d'amour un petit peu décalée, mais je ne trouvais pas l'angle, je ne trouvais pas le biais. Et je suis retombé sur des romans photo, je crois que c'était Opus. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça, c'est un support idéal pour raconter une espèce d'histoire fleur bleue, parce que c'est hyper codifié. Les romans photo, c'est toujours avec des poses. Et plus c'est codifié, plus on peut s'amuser avec ça, en fait. Et j'ai trouvé que c'était un super support d'humour, en fait, le roman photo. Alors bon, j'ai pas été le premier à voir ça. Déjà à l'époque fluide, il faisait des romans photos, il détournait. Et donc non, j'ai pas une relation passionnelle roman photo, mais en tant que support d'humour, je trouve que c'est un super outil. Donc moi j'avais fait ça avec Et si l'amour s'était aimé, mais à l'époque j'avais redessiné, j'avais acheté un roman photo sur Price Minister, non ça n'existe plus Price Minister, sur un vieux site. Et là je m'étais amusé à redessiner les cases, donc là pour le coup c'était dessiné. Après, je m'étais un petit peu amusé avec ça sur mon dernier album BD Moon River. Je reprends deux pages de roman photo. Et là, par contre, l'initiative n'est pas de moi. C'est l'éditrice qui est venue nous chercher avec Eric pour ce projet-là.
Et elle vient te chercher avec Eric. Tu as un coup de téléphone, je crois, avec Eric Judor. Et c'est lui qui dit « je voudrais une histoire de vaudou ».
Ouais. Oui. Alors, l'éditrice donc, a l'idée de nous... a envie de réunir nos deux univers, à Eric et moi. Et il se trouve qu'on aimait bien le boulot l'un de l'autre. Donc on fait une première réunion, c'était par Zoom, parce qu'Eric était dans les îles, je crois. Et alors on commence à dire, ouais, super, super idée. Et alors je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et il me dit, moi je veux une histoire de vaudou. Bon, débrouille-toi avec ça. Donc on a brassé quelques idées, on s'est dit, ouais, une espèce de polar. Et puis j'ai eu cette idée de super loser qui voit une affichette d'un week-end vaudou, donc il va au week-end vaudou et après il devient un super winner. Enfin, je spoil un petit peu le truc là.
Raconter l'histoire, c'est Stéphane Chabert qui est joué par Eric Judor, qu'on voit là, qui bosse dans une boîte de com, qui est vraiment celui dont on se moque, que les collègues évitent, qui est amoureux évidemment d'une de ses collègues à qui il n'ose pas déclarer sa flamme, qui tombe à plat à peu près à chaque fois qu'il propose une campagne de pub ou une campagne promo. Et qui tombe sur cette publicité pour un stage vaudou qui va le transformer, espère-t-il, on va pas spoiler la fin, mais le transformer en super winner, effectivement.
Voilà. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Voilà. Eric voulait un truc de vaudou. Donc je suis parti là-dessus. Donc j'ai scénarisé l'album. Au départ, on devait co-écrire avec Eric, mais lui, il était à fond sur ses projets de série. Donc j'ai scénarisé tout l'album. Je leur ai soumis à Eric, à l'éditrice. Et en fait, ça leur a plu tel quel. On a retouché deux, trois trucs, mais on est resté sur ce scénario-là. Et après, il y a eu toute la partie mise en scène. Ça, c'est devenu notre boulot. Mais moi, j'ai fait, en gros, la partie scénario.
Justement, on va reparler de la mise en scène, mais j'ouvre juste une parenthèse, parce que tu parlais de la bande dessinée que tu as faite, qui s'appelle « Et si l'amour s'était aimé », qui est donc une bande dessinée roman photo, et qui est celle qui arrive justement après Zai 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 Zai. Donc, qui arrive après ce succès fulgurant, et c'est alors à l'époque un peu moins, mais aujourd'hui plus de 300 000 exemplaires vendus. Et quand tu dois rebondir, tu décides de faire un roman photo. Ça prouve quand même ton rapport au genre.
Ouais. Bah après Zai Zai, j'ai une espèce de... Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Alors, l'idée, c'est de prendre le contre-pied, en fait. J'allais surtout pas faire un Zai Zai 2 ou un truc dans le même style. Donc voilà, il fallait vraiment que je me démarque de Zai Zai pour sortir un petit peu de ça, et puis moi surtout pour pas m'ennuyer, en fait, faire autre chose. Donc c'est comme ça que je suis parti sur ce projet, quoi, un roman photo.
Et c'est simplement en tombant sur un vieux nous deux que...
Ouais, c'est ça, j'ai vu le côté. Bah, moi, chez Six Pieds Sous Terre, donc mon éditeur, en général, j'aime bien partir de... Alors c'est pas des parodies, mais c'est des détournements. J'ai fait un faux carnet de voyage, j'ai fait le carnet du Pérou. J'ai fait un faux catalogue, une espèce de parodie du catalogue de la Redoute.
La Bredoute.
Ça, pareil, les influences de ma grand-mère. Enfin, même pas de ma grand-mère, pour le coup. Moi, je connaissais la Redoute, le catalogue. Ça n'existe plus, c'est les catalogues.
Non, je pense que c'est plus édité, là, maintenant. C'est laredoute.fr.
Voilà, c'est une espèce de tradition. Bon, c'est pas établi, mais chez Six Pieds, souvent, j'aime bien partir de trucs... détourner des codes, en fait. Partir de choses très, très codifiées et m'amuser avec ça, les parodier. Donc, après Zai Zai, ouais, le roman photo, ça s'est imposé.
Alors, je referme la parenthèse pour revenir sur la fabrication de ce livre, parce que qui dit roman photo dit prise de vue photo avec ses poses, j'allais dire très posées, ça veut rien dire, mais en tout cas très marquées. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as participé toi-même à cette séance photo? Est-ce que c'est toi qui dirigeais les comédiens et comédiennes en leur disant « lève le doigt comme ça » Comment ça s'est passé?
Alors, au départ, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était que je devais être présent sur la séance photo pour diriger le truc. Mais très vite, je me suis aperçu que je savais pas faire ça, que j'étais nul, en fait. Parce que, enfin, faut avoir le tempérament pour faire ça, pour dire à quelqu'un, bon, maintenant tu te mets là, tu fais ça. Non, là ça va pas. Je me suis aperçu, au bout de deux photos, ça a été réglé. Je me suis aperçu que je savais pas faire ça. Alors heureusement, l'éditrice était là, et c'est elle qui a pris le relais. Moi, j'étais censé mettre en scène, et j'étais les acteurs me disaient, ça va, là, je dis, ouais, super, super. Donc je me suis très vite aperçu que moi je savais pas diriger. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir faire. Et l'éditrice qui sait faire ça a pris le relais. Et donc c'est elle qui a. Alors moi j'étais là pour superviser que ce soit cohérent par rapport au projet. Mais c'est elle qui s'est occupée de tout. Elle a fait un boulot monstrueux. C'est elle qui s'est occupée de trouver les lieux, de trouver les costumes, de trouver le casting même. Enfin en partie parce que moi j'ai amené des amis aussi. Mais ça a été un gros gros boulot et c'est elle qui a tout géré. Ouais.
Parce que quand on prépare j'allais dire un tournage ou une séance photo de roman photo, est-ce que tu savais, tu dessinais, toi qui es dessinateur, est-ce que tu avais dessiné les positions des comédiens, est-ce que c'était simplement écrit comme un scénario de film finalement?
Non, moi je scénarise toujours en storyboard, c'est-à-dire que je découpe déjà en cases, et après je fais des espèces de bonhomme patate comme ça, donc avec une espèce déjà de mise en scène. Donc après la marge de manœuvre n'était pas non plus énorme, pour surtout qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire, il fallait juste qu'ils posent comme ça, Donc la marge de manœuvre d'acting n'était pas énorme, parce que j'avais déjà scénarisé sous forme de storyboard. Moi, j'étais juste là pour m'assurer que le ton correspondait, que ce n'était pas surjoué surtout, parce que pour que le décalage fonctionne, il ne fallait pas que les acteurs surjouent ce qu'ils étaient en train de dire, voilà, pour que ça reste assez drôle. Mais non, après, on est resté assez fidèle à mon storyboard. Après, des fois, techniquement, il y a des choses. Je m'étais un petit peu enflammé sur le scénario. Il y a des surtout qu'on a fait ça avec très peu de moyens, des bouts de ficelle. Donc, il fallait adapter un petit peu le truc. À un moment, il y a une scène où j'imaginais qu'Eric avait sur la tête un plateau repas, puis un tas de trucs qui s'empilent. Donc, il y a eu tout un tas de montages photo derrière. On a adapté un petit peu avec les moyens du bord.
Quand tu dis très peu de moyens, il y a quand même un gros budget perruque et...
Gros budget perruque,
ouais. Tout est passé dans les perruques, en fait.
L'idée, parce que pour nous, ça c'était un truc aussi, c'était le truc de base, on s'était dit, un roman photo, il faut que ce soit dans le visuel très kitsch et très 70s, en fait. Donc voilà, d'où les décors qui font mal aux yeux, les costumes, les perruques comme ça, époque. On tenait à ce décor, même si ça traite de problématiques assez contemporaines. On voulait ce décalage-là, qu'on puisse situer ça. Ouais, il y a des Minitel qui traînent, des téléphones à cadran comme ça. On voulait que ce soit vraiment très 70s.
Tu disais, j'ai ramené les copains, alors on va pas faire tout le casting. Un des rôles principaux qui est joué par Alison Wheeler, chroniqueuse notamment sur Canal+. Il y a Nicolas et Bruno aussi, le message à caractère informatif, qui était un de ceux qui avait les premiers adapté Zai 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 au théâtre. Et il y a Monsieur Le Tellier, prix Goncourt, 1 million d'exemplaires vendus, et qui vient faire un roman photo pour Fab Caro.
Il a été super, ouais. Oui, le Goncourt, ouais, c'est comme tu dis, un best-seller.
C'est le Goncourt le plus vendu depuis très longtemps.
Ouais. Et on lui dit, tu veux venir t'amuser à faire un roman photo? Je te préviens, c'est débile. Ouais, super. Non, il est génial, Hervé. Donc, il est venu s'amuser avec une espèce de perruque, a fait... Ouais, c'est assez inattendu. Mais bon, ça correspond au personnage qui, lui, pour le coup, il n'a pas la grosse tête. Il est... bah, c'est quelqu'un qui vient de l'Oulipo. Donc, pour lui, le jeu, c'est la base. Lui, s'amuser, c'est, bah, c'est la base de l'Oulipo, quoi. Donc, venir faire ce truc-là, mettre une perruque, et... ça l'a excité tout de suite.
Quel lien tu fais entre le roman photo et la bande dessinée? Parce que finalement, c'est des cases, au lieu d'être dessinées, qui sont des photos. Les bulles, c'est des bulles. Ouais. Les textes sont dans des bulles. Est-ce que les deux sont plus liés que ce qu'on pourrait penser, imaginer? Ça fait pas très chic de dire ça, mais...
Ouais. Mais moi, mon boulot, à moi, était pas tellement éloigné de ce que je fais d'habitude, en fait. Moi, j'ai scénarisé en storyboard, comme les scénarios que je fais pour, que je peux faire pour des amis ou quand je travaille seulement en scénariste. Donc moi, mon travail à moi a été très proche de ce que je fais d'habitude, en fait. C'est du scénario en storyboard. Après, on maîtrise pas tout. Après, il y a eu la séance photo. Là, c'est un truc, il faut lâcher un petit peu le bébé et il faut se dire que ça va devenir autre chose parce qu'il y a la contrainte photo, il y a... Mais non, on est très proche de la BD, oui.
Et est-ce que, si je pousse le curseur encore un petit peu plus loin, toi, tu dis tout le temps et tu revendiques un dessin assez figé, c'est-à-dire que t'as, dans certaines bandes dessinées, notamment, évidemment, Zai 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 Zai, certaines fois, c'est le même dessin qui est appliqué dans plusieurs cases et le dessin prend vie par le dialogue. C'est aussi le cas du roman photo, finalement. C'est-à-dire que c'est un dessin très figé et tu donnes vie à tes personnages que par le dialogue. Donc, est-ce que ce parallèle est encore plus fort?
Oui. Et même, encore une fois, il a fallu que je me fasse violence, parce que dans mes storyboards, une fois de plus, c'était très, très figé. Mais là, très vite, on s'est aperçu que si on restait figé aussi dans les photos, bon, ça aurait été un petit peu tristoun, visuellement. Donc, il y a une espèce de mise en scène. Bon, voilà, pour le coup, la mise en scène est plus élaborée que ce que je peux faire en BD. Il y a des prises de vue, un petit peu des parties pris. Mais au départ, moi, mes storyboards étaient un petit peu figés comme ça aussi.
Il y a combien de photos qui ont été prises?
La photographe me l'a dit, j'ai oublié.
C'est mais pas plus de 3000.
Ouais, je crois que c'est 3000, un truc comme ça. Ouais. Ah oui, après, il y a un gros boulot de... Ouais, il y a 49 acteurs, il y a 3000 photos. Ouais, c'était un gros boulot. L'éditrice s'est lancée dans un truc. Elle fait des livres d'habitude normaux, j'allais dire. Là, d'un coup, elle se retrouve avec une espèce de budget presque, pas cinéma, mais à devoir gérer quelque chose avec des acteurs, une matière. Ouais.
Tu dis aussi souvent que le terreau de tes histoires, et c'était particulièrement le cas dans tes premières bandes dessinées, c'était des histoires de losers, c'est-à-dire de gentils perdants, y compris quand tu te racontais toi, comme auteur de BD qui réussissait pas, qui vendait quelques centaines d'exemplaires. Aujourd'hui, évidemment, tu peux plus raconter ça dans tes BD, puisque ce que tu vis au quotidien, c'est plus quelques centaines d'exemplaires, c'est quelques centaines de milliers, ça change de trois choses. Donc est-ce que raconter la vie de ce gentil loser, et c'était aussi une manière de replonger dans ce type d'histoire-là, qui était des histoires du début?
Ouais, ça m'a fait du bien, ouais, de revenir un petit peu à de la loose. Non, bah oui, parce que moi, quand j'ai commencé, j'adorais raconter mes histoires de festivals où j'avais personne, où j'avais des toiles d'araignée sous les bras. Et maintenant, les dédicaces, ça va un petit peu mieux, j'ai plus de monde. Je me dis ça d'un point de vue narratif. Bon, ça n'a plus trop d'intérêt, je ne vais pas m'amuser à raconter mon succès, c'est nul. Donc, ouais, je n'avais pas analysé ça comme ça, mais oui, il y a cette envie de revenir à du loser un petit peu, qui me manque. Donc, ouais.
Le loser me manque. Et cette envie d'aller aussi, encore une fois, à un endroit où on ne t'attend pas forcément, parce que oui, il y a eu cette BD qui s'inspirait du roman photo, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'était dessiné, mais cette envie de dire... oui, je suis l'auteur de Zai Zai, mais m'attendez pas avec un Zai Zai numéro 2 ou un Zai Zai numéro 3. Je vais encore prendre complètement la tangente et aller carrément sur du roman photo.
Ouais. Bah, ça, c'est un truc... c'est pour pas m'ennuyer, en fait. C'est toujours rester excité. Essayer de toujours me renouveler, surtout moi, pour pas m'ennuyer. C'est pas tellement par rapport au lecteur. C'est ça. Essayer de pas refaire toujours pareil pour toucher à tout. Et c'est vrai que le roman photo, c'était pas forcément gagné, ce support-là. Quand je travaillais là-dessus et qu'on me disait « Tu fais quoi en ce moment ?» Je dis bah, « je fais un roman photo. » J'avais une espèce de regard vide en face. Enfin, c'était pas gagné au départ, ce projet. Et ça m'excitait d'autant plus. Quoi. Je me suis dit « Bon, ben voilà, c'est un terrain que je connais pas. C'est un truc que je sais pas faire. On va voir ce que ça peut donner. »
Mais ça te fait jamais peur, justement, d'aller quand t'as ce regard vide en face de toi, de se dire qu'à chaque fois, quand même, tu remets en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vrais enjeux, y compris financiers, d'ailleurs, sur tes livres. Le livre est tiré à plus de 100 000 exemplaires, donc c'est un énorme tirage. Toi, tu prends ça...
Ouais, non, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur, mais tu fais le beau. Non, ce qui me fait peur, c'est l'ennui. Le seul truc qui me fait peur, c'est l'ennui. J'ai la chance de faire un boulot que je rêvais de faire depuis gamin, et ce serait dommage d'arriver là et de s'ennuyer comme si on faisait un boulot de gagne-pain, quoi. Donc l'idée, c'est de surtout pas s'ennuyer. Et je préfère des fois faire des choses où je me dis, je sais pas si je sais faire. Bah d'ailleurs, à chaque projet, je me dis, je sais pas si je sais faire. Mais je trouve que le sel, il est là, quoi, de faire toujours un truc où on n'est pas sûr de savoir faire. Toujours pour garder cette excitation. Et je préfère faire un truc que je sais pas faire et puis faire un four et en vendre trois. Mais au moins, j'aurais testé quelque chose qui m'excite, quoi, plutôt que de refaire toujours le même truc.
Mais toujours dans le livre. Parce que toi, ton rêve de gamin, c'était de faire des livres, pas forcément des BD. On va parler du roman juste après, mais donc c'est un roman photo, là encore, en tant que livre. C'est pas faire du cinéma, c'est pas faire...
Bah là, il y a des...
Ah, il y a quelque chose que tu peux pas nous dire.
Voilà, ça s'est vu que je m'auto-censurais. Non, là, il y a
des... un film en préparation, mais tu peux pas parler.
Non, mais là, toujours pareil, dans cette logique de vouloir tester d'autres formes d'écriture, un théâtre m'a demandé si je voulais pas écrire pour le théâtre. Et là, pareil, même logique, je me dis, tiens, je ne sais pas faire ça, j'ai qu'à le faire. Toujours cette logique de dilettante, en fait. Moi, j'adore ce truc-là d'être amateur, toujours. J'aime pas l'idée d'être un professionnel de quoi que ce soit. Et donc, un théâtre me commande une pièce, je me dis, ah ben super, je ne sais pas faire ça, je vais faire ça. Donc, s'il faut, ça va être tout pourri, si ça se trouve, je ne vais même pas arriver au bout. Mais j'aime bien l'idée de tester d'autres formes d'écriture. Donc, il y a le théâtre, et il y a un scénario de film aussi, pareil, un truc que je ne sais pas faire. Et je me suis lancé là-dedans aussi.
Donc là, tu sors du livre, pour le coup.
Je sors un petit peu du livre.
C'est à tes débuts, quand tu étais dans la presse, etc. Voilà, tu n'étais pas encore dans le livre, mais là, vraiment, c'est...
Ouais. Moi, j'ai un culte pour l'objet livre. Moi, j'ai toujours aimé le livre, que ce soit le roman, la BD, donc j'ai ce culte de l'objet livre. Mais là, j'ai pas mal de livres derrière moi, et les nouvelles opportunités qui arrivent comme ça, je me dis, bah, pourquoi ça... Enfin, moi, ce qui me passionne, c'est l'écriture, et l'écriture au sens large. Donc le théâtre, c'est de l'écriture, le cinéma, c'est de l'écriture. Donc ça reste, même si c'est des trucs que je ne maîtrise pas du tout, ça reste de l'écriture.
Et le cinéma, il n'y a pas de journaliste dans la salle, on est entre nous, on peut sans citer le réalisateur avec lequel tu travailles, mais simplement l'histoire, ça se passerait, je crois, lors d'un enterrement.
Sûr, il n'y a pas des journalistes?
Non, regarde, j'en vois pas. Je peux le dire entre nous.
Il y a deux trucs en cours, en fait. Il y a, une co-scénarisation avec Laurent Tirard qui a adapté le discours. Alors, il était bon, ça a bien fonctionné entre nous sur le discours, et il a eu envie qu'on co-scénarise un truc. Donc, on est parti sur une co-scénarisation d'une espèce de suite au discours. Oh, j'en dis déjà trop là. Oubliez ce que je viens de
dire. Ça reste entre nous.
Donc, il y a ce truc-là, et puis par ailleurs, il y a un scénario original que moi j'avais commencé à écrire, et que j'avais. Faut que je fasse gaffe à pas citer de nom. Et j'avais imaginé quelqu'un dans le rôle-titre. Et il se trouve qu'avec ce gars-là, on s'est rencontrés, on a sympathisé. Et je lui ai dit, bah tiens, j'ai écrit un truc et je t'ai imaginé dans le rôle-titre. Il m'a dit, montre. Et ça lui a super plu. Il a dit, bah, viens, on le fait. Allez, viens, voilà. Et lui, il est réalisateur par ailleurs. Donc. Voilà, vous n'en saurez pas plus.
C'est déjà pas
non,
mal.
Non, mais en plus, je ne sais même pas.
C'est si déjà pas mal parce que tu n'en as jamais parlé.
Non, je n'ai jamais parlé. Mais là, pareil, je ne sais pas si ça va aboutir. Enfin, lui, il veut que je réalise. Mais moi, je dis non, moi, je ne sais pas faire ça. Je lui ai expliqué, je lui ai raconté mon expérience. C'est du roman photo. Je dis, je suis incapable de dire à quelqu'un, tu fais, même dans la vraie vie, je suis incapable de dire à quelqu'un, tu fais ça. C'est une nature, quoi. Moi, je serais un très mauvais patron. Et donc, j'ai un secret espoir que lui le réalise à partir de mon scénario.
Parce que dans l'adaptation de Zai 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 au cinéma, tu joues une scène, tu joues le dessinateur de police, je ne sais pas comment on dit ça, mais qui croque les portraits robots. Il paraît que tu étais très stressé le jour du tournage.
Ouais, j'avais un mot à dire. Il fallait que je dise. Oui, c'est François Dezania sur Zai Zai qui m'a dit « Ah, ce serait bien que tu fasses une apparition. » Et moi, je suis hyper émotif, je suis hyper timide. J'ai dit « Non, rien que ma scène, elle te plante le film, c'est sûr. » Donc, bon, j'ai fini par accepter parce que je trouvais le clin d'œil rigolo. Il me fait jouer un dessinateur. Et donc, j'avais deux mots à dire. Je devais dire « Des lunettes. » Et j'étais hyper stressé. Il a fallu faire la prise 10 fois. Et au final, je crois que dans le film, je dis « avec des lunettes ». Donc, même deux mots, je me gourre dans le texte. Donc, voilà. S'il y a un truc que je ne ferais pas, c'est acteur. L'écriture, ça va. Mais...
Je voulais aussi, évidemment, qu'on parle de la deuxième actualité, puisque tu as tellement d'actualités qu'il y a carrément deux livres qui sortent en même temps. C'est ce roman, « Samouraï », qui est ton quatrième roman, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, je vais te demander de le résumer, mais le personnage s'appelle Alan. Il est romancier, enfin, il essaie. Lui, pour le coup, il rencontre pas vraiment le succès. Il vient de se faire quitter par sa compagne, qui est partie avec un universitaire spécialiste de ronsard. Et donc, il se dit, et qui lui a dit surtout, avant de partir, ce serait bien qu'un jour, t'écrives un roman sérieux. Et lui, il se dit, si je veux la reconquérir, il va falloir que j'écrive un roman sérieux. C'est le point de départ. Et je rajoute à ça que, je ne sais pas pourquoi, tu as décidé que par ailleurs, il devait entretenir la piscine de ses voisins. C'est la base du roman.
Voilà, bah, tu as tout dit. Dans mes histoires, il n'y a pas vraiment d'histoire. L'histoire se résume à ça. Mais ouais, que dire de plus ? J'avais envie d'un roman estival. Là, pour le coup, il n'y a jamais de point, il n'y a jamais vraiment d'histoire dans mes romans. Moi, ce que j'aime, c'est être guidé par partir d'un point de roman d'un point de départ très ténu. Mes romans, ils tiennent sur le pitch, tiennent sur un post-it en général, même pas. Et là, c'était juste, j'ai attaqué le roman en juin, je crois, juillet, et j'avais envie d'un roman d'été. J'avais jamais fait ça. En général, mes romans sont pas tellement situés dans les saisons et dans l'année comme ça. Et là, j'avais cette envie d'un roman d'été, un roman estival. Alors, c'est pas pour ça que c'est la grosse rigolade. Enfin, voilà. Le point de départ, c'est ça. C'est un roman estival. Et donc, avec ce que tu as dit, une espèce de double fil rouge, lui qui se met en tête d'écrire un roman sérieux.
Sur ses parents qui ont immigré d'Espagne.
Ouais, donc. Bon, faut pas trop que je spoil, mais en gros, il passe d'un sujet à l'autre, il cherche. Il cherche à tout prix un roman sérieux, et puis tout en cherchant son roman sérieux, chaque fois il se dit « Ah ben oui, c'est ça la bonne piste », et il se voit toujours interviewé par Claire Chazal. C'est son gros fantasme, se faire interviewer par Claire Chazal.
Qui est ton fantasme, peut-être ?
Ah non, ah non, non, moi...
Assouvi, ouais. Peut-être, d'ailleurs, parce qu'elle a une émission culturelle à la télévision.
Non, mon éditeur m'a appris qu'ils avaient envoyé le roman à Claire Chazal, depuis je suis flippé, je ne sais pas ce qu'elle va en penser. Et donc, voilà, le double fil rouge, c'est ça, c'est il se met... Il a pour mission d'écrire ce roman sérieux et ses voisins sont partis en vacances et lui ont demandé de surveiller sa piscine, leur piscine. Sauf que lui, il ne sait pas trop ce que ça veut dire, surveiller une piscine. Il se dit, quoi, elle ne va pas partir. Donc voilà, c'est un petit peu le double fil rouge. Et comme il s'est fait quitter par sa copine, ses meilleurs amis se mettent en tête de lui trouver une amie parce qu'il ne supporte pas de le voir seul, alors que lui est très bien tout seul. Donc il y a ce truc-là aussi, il y a les rencontres avec les filles que le couple d'amis lui présente.
Tu dis toujours que tes romans, c'est une histoire entre guillemets sérieuse, en tout cas une trame d'histoire au milieu et un élément perturbateur. C'est à chaque fois que tu commences l'écriture d'un roman, tu pars de ce postulat-là. C'est comme ça que ça marche.
Ouais, il faut qu'il y ait un petit déclic chaque fois, mais ça tient sur pas grand-chose. C'est plus une. Il me faut un petit déclic à moi, mais après, c'est plus une envie de mots. Et puis ça. Ça va des digressions. Il y a beaucoup de digressions dans mes romans. Des fois, je plains mes lecteurs, je me dis, oh, mais les pauvres, dans quoi je les embarque ? Parce que j'adore la digression, parce que mes romans sont toujours très introspectifs et j'ai tendance à suivre moi-même le fil de ma pensée. Et quand moi je divague, mon écriture divague aussi. Donc ça donne lieu à beaucoup de digressions comme ça. Et du coup, j'ai oublié ta question.
Non, c'était justement le côté trame d'une histoire au milieu et des éléments perturbateurs.
Oui, voilà, c'est ça. Ces en fait, j'essaie de revenir régulièrement à la trame et c'est un petit peu free jazz autour. Mais il y a toujours, voilà, dans Broadway, c'était le point de départ, il reçoit une enveloppe comme ça par la poste. Dans le discours, il est censé faire un discours et il attend le texto du ex. Donc voilà, c'est un petit point de départ qui, moi, d'un point de vue dramaturgique, me permet de faire évoluer un petit peu l'histoire. Mais autour, je fais un petit... J'allais dire n'importe quoi. Je fais pas n'importe quoi non plus. Mais voilà, ça me permet aussi, moi, de laisser libre cours à l'écriture, de manière générale.
Puisqu'évidemment, dans cette piscine, une vie sauvage va s'y développer.
Voilà, et la piscine. Alors, la piscine, pour moi, c'était. Bon, je ne vais pas intellectualiser le truc, mais pour moi, la piscine, c'était la métaphore de sa vie et de son intérieur aussi. C'est-à-dire, la piscine lui échappe comme lui échappe sa vie, en fait. Bon, je spoil un petit peu, mais ça arrive. La piscine, évidemment, lui échappe. Il est incapable de s'occuper d'une piscine. Donc, très vite, il voit arriver des espèces d'insectes qui s'appellent des notonectes. Voilà, petit cours de biologie. C'est des espèces d'insectes comme ça, avec deux grands bras qui nagent la brasse. Et quand vous voyez apparaître ça dans la piscine, c'est que ça manque de chlore et c'est mauvais signe. Donc voilà, peu à peu, ils vont apparaître des notonectes.
Et il faut faire un chlore choc.
Il faut faire un chlore choc. Ouais, on se croirait chez Darty, je vous fais une leçon de masterclass de piscine.
Tu dis toujours, et d'ailleurs c'était le cas dans tes premières bandes dessinées surtout, qu'il y a une part d'autobiographie quand même dans tes écrits. Ce que disent d'ailleurs beaucoup d'auteurs dans plusieurs formes d'art. Dans ce livre-là, c'est quoi la part de l'autobiographie ? C'est l'envie de faire une histoire sérieuse, puisque tu es effectivement plus connu pour des histoires humoristiques que des histoires sérieuses. Qu'est-ce que tu as mis de toi là-dedans ?
Ah non, non, là, pour le coup, c'est pas ça, parce que moi, je suis incapable d'écrire une histoire sérieuse. Moi, l'humour, justement, me permet de parler de choses sérieuses. C'est différent. J'adore aborder des thèmes sérieux, mais en passant par l'humour. Parce que, encore une fois, je dis souvent que l'humour, je m'en sers comme un outil, c'est un outil de pudique. C'est-à-dire que ça me permet de parler de choses profondes. en tout cas moi qui me touche. Mais en passant par l'humour, ça me permet de pouvoir... De manière frontale, je ne pourrais pas. Je suis trop pudique. Je ne me verrais pas écrire un roman sérieux et parler de tout ce que j'aborde de manière sérieuse au premier degré. Donc l'humour et l'absurde me servent plus d'outils que de finalités. Par rapport à la BD où l'humour est plus une finalité, dans le roman, c'est plus un outil. Donc non, l'envie de faire un roman sérieux, non, je ne saurais pas faire ça. Mais la partie autobiographique... Ouais, il y en a partout dans mes romans. Mais j'aime bien mêler l'autobio et la fiction et qu'on démêle pas l'autobio de la fiction. Je n'ai pas envie qu'on voit ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Donc je mélange tout ça, mais il y a beaucoup d'autobio dans mes romans. Et dans celui-là, ouais, peut-être plus que les autres. Ouais. Bah, notamment, ce que je peux dire, c'est que dans sa quête de roman sérieux, il veut écrire un roman sur les immigrés espagnols qui ont fui le franquisme. Et ça, c'est mes origines à moi. Moi, ma mère est arrivée d'Espagne, elle avait 9 ans, mais mon grand-père était militant communiste, il a fui Franco. Et ça, jamais, j'aurais... Je sais pas, peut-être, quand j'ai écrit ce roman-là, j'avais envie de parler de mes racines un petit peu, comme ça, mais jamais j'aurais pu écrire ça de manière... je sais pas, comme un roman sérieux, on parle... Donc, je passe par le biais de l'alibi du roman sérieux pour parler un petit peu de ça. Ça rejoint, ça me permet de parler un petit peu de mes racines.
Mais c'est en ça qu'on imagine assez vite que ce personnage est en grande partie inspiré de toi, quand on sait que tu viens d'Espagne, etc. Et quand lui-même veut raconter sa propre histoire de parents immigrés espagnols, on se dit, en fait, c'est Fab Caro qui se raconte, ce qui est effectivement sans doute plus le cas dans celui-là que dans les trois précédents.
Ah oui, ça se voit.
En tout cas, moi, je l'ai vu. D'accord. Je sais pas si tu l'avais déjà lu.
J'essaie toujours de le déguiser un petit peu, mais des fois, ça se voit plus que... J'essaie toujours de le déguiser, de mêler la fiction, que ça se voit pas trop. Parce qu'encore une fois, par pudeur, j'aime pas parler de... Donc je mêle ça à des anecdotes plus burlesques, mais c'est peut-être le livre où il y a le plus d'autobio. Oui.
Il manquerait plus que tu nous dises que tu as une piscine et que tu as fait un chlore-choc. Et...
Alors j'ai une piscine, ça c'est le c'est le détail pas avouable. C'est oui. Moi je voulais pas de piscine. Il se trouve que on a acheté une maison. Il se trouve qu'on a acheté une maison et quand j'ai vu qu'il y avait une piscine, je voulais changer d'avis. Non, hors de question que moi j'ai une piscine. Mais bon, je me suis laissé convaincre par mes filles. Pour moi, c'est idiot, mais c'était un symbole bourgeois par excellence. C'est nul. C'est pas très grave d'avoir une piscine. Mais moi, je voulais surtout pas de piscine. Bon, bref, voilà. Je vous raconte ma vie.
Mais, non, mais ça montre à quel point il y a beaucoup de choses personnelles dans ce bouquin.
Voilà. Et donc, bon, pareil, j'ai jamais su m'occuper de ma piscine. Donc, et j'ai essayé de convaincre...
Mais ce personnage n'est pas du tout toi.
Pas du tout. Et donc, j'ai essayé de convaincre mes filles que se baigner dans les algues, c'est bon pour la peau. Mais bon, c'était pas très cohérent comme explication.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là encore, évidemment, Zai 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 t'a révélé au grand public. Mais au tout départ, lorsque tu as envie de faire des livres, que tu es étudiant, tu écris des nouvelles, tu écris des premiers romans. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu des succès BD que tu t'es mis à faire des romans et que tu t'es servi de ces succès BD pour faire des romans. C'est presque l'inverse. Si tu avais dû choisir, je vais pas te demander de choisir parce que c'est stupide, mais on sent que le roman avait une place très très importante.
Oui. J'ai toujours fait les deux. J'ai toujours écrit et dessiné depuis tout petit. Aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours fait les deux. Quand je me revois tout petit, c'était souvent des projets, moitié dessin, moitié texte. Donc j'ai toujours mené les deux de front comme ça, parce que les deux me passionnaient, l'écriture et le dessin. Et comment ça s'est fait après? En 2005-2006, est sorti ma première BD, mon premier roman. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai plutôt poussé la BD, mais j'ai jamais cessé d'écrire des romans. J'ai jamais cessé d'écrire de manière générale. Et avant même la publication de mon roman, j'écrivais des nouvelles. Même à une époque, j'ai gagné un petit peu d'argent comme ça. Je faisais des concours de nouvelles. J'ai gagné 2-3 concours de nouvelles. Je me disais, oh, mais c'est super. Bon, après, ça n'a pas été plus loin. J'ai gagné que 2-3 concours. Mais je me suis dit, oh, d'un coup, j'ai vu le lien entre une passion et quelque chose qui peut être une espèce de profession, quoi. Je touchais du doigt ce truc-là. Je me dis, tiens, on peut peut-être vivre de l'écriture.
Et aujourd'hui, où les BD se vendent si bien, est-ce que tu as plus envie de finalement de développer le côté romancier et de...
Je crois que plus ça va aller, enfin j'en sais rien, je sais pas ce que l'avenir, mais je crois que plus ça va avec l'âge, plus je... Là le discours ça a débloqué un truc, entre Figurec et le discours il s'est passé 12 ans je crois, et le discours a débloqué un truc qui fait que je prends vraiment du plaisir à revenir au roman, quoi. Et de plus en plus, et comme je fais une quarantaine de BD si c'est pas plus... J'ai plus l'impression d'avoir fait le tour de ma BD à moi, alors que le roman, je me sens encore un petit peu débutant. Donc, je crois que plus ça va, plus je vais aller vers le. Enfin, j'en sais rien, mais je crois, a priori, avec l'âge, je vais plus vers l'écrit, oui. Enfin, vers le roman pur.
Et est-ce que c'est aussi parce que tu n'es pas blasé, mais tu en as un peu marre du dessin? Tu as toujours dit, moi je le crois pas, mais tu as toujours dit que tu n'étais pas dessinateur, que tu savais pas dessiner, que tu savais pas faire un cheval, que tu savais pas faire une voiture.
Non, mais c'est vrai.
Tu savais juste faire des petits personnages. Oui, c'est vrai, enfin, on peut en discuter longtemps. Mais est-ce que du coup, il y a une forme de lassitude vis-à-vis de ce dessin, que tu as le sentiment peut-être de moins maîtriser que les mots et que l'écriture?
Alors déjà, il y a le côté que ben, la BD, j'en ai beaucoup fait, comme je disais, donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup exploité, enfin avoir fait beaucoup de choses et tourné un petit peu en rond. Et il y a ça aussi, il y a une BD, c'est un texte et un dessin derrière. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Et moi, j'adore l'idée de... C'est pour ça que je ne pourrais jamais faire de ciné. Parce qu'il y a tellement d'étapes entre l'idée originelle et ce que ça devient à la fin, que ça peut vraiment prendre deux chemins. Et l'écriture d'un roman, il n'y a pas plus direct, en fait. C'est-à-dire que ça va directement du cerveau, moi ça passe plus par le ventre, c'est-à-dire de l'émotion à la feuille. Et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas ce truc-là où on va se dire, bon, maintenant il faut le dessiner. Et plus c'est direct, et plus c'est excitant, et moins on peut se lasser. Donc pour moi, c'est la forme la plus pure d'écriture. Et on atteint son but plus rapidement, peut-être avec moins de concessions que quand on passe par le stade de dessin. C'est clair ce que je raconte? Ouais. Des fois, j'ai l'impression d'être flou. Non, ça va?
Il nous arrête, sinon. et parce que ton entrée dans la vie de romancier a été plus compliquée, j'ai l'impression, que dans la vie de dessinateur. C'est-à-dire que tes premières planches, assez vite, tu as trouvé quelqu'un pour les éditer, à savoir La Cafetière. Alors qu'en roman, il y a eu plusieurs premiers romans qui n'ont pas, j'avais noté les noms, Alopécie notamment,
ouais.
Qui n'ont jamais trouvé à être édité.
Ouais, mon tout premier roman, enfin c'est pas mon tout premier, parce que j'avais fait un roman déjà à la fac sur un cahier, mais mon tout premier roman avec lequel j'ai démarché les éditeurs, qui s'appelait Alopécie, sur un type qui perd ses cheveux. Déjà on était sur des grandes histoires construites.
Et profondes.
Et profondes. C'est le premier roman avec lequel j'ai commencé à démarcher, et j'avais cette espèce de fougue de la jeunesse. J'ai envoyé à 10 éditeurs en me disant lequel je vais choisir d'éditeur. Ah ouais, j'étais embêté, je me disais, j'envoie à 10, mais comment je vais faire après? Comment je vais expliquer à l'autre que c'est l'autre qui l'a pris? Et une telle croyance que j'ai envoyé les manuscrits. Alors ça, c'est surréaliste, mais c'est vrai. J'ai envoyé les manuscrits et le lendemain, j'allais voir ma boîte aux lettres. Comme si le lendemain, il pouvait déjà y avoir une réponse. Ouais. Et donc, non, que des lettres de refus. Que j'ai gardé d'ailleurs en souvenir. Je collectionne mes lettres de refus. Ça, je trouve que c'est bien pour garder un lien avec la loose toujours. Et donc, mais cela dit, les BD, j'ai eu beaucoup de refus aussi que j'ai gardé, les lettres. Donc la BD n'a pas aussi percé de suite. J'ai eu des refus et en roman et en BD, mais peut-être plus en roman. On redescend d'un cran, quoi. L'ego en prend un coup. On se dit, mais alors pourquoi? Mais c'est bien de passer par ces. C'est bien de passer par ces échecs là. C'est bien les échecs, ça permet de se construire, et puis de s'améliorer aussi.
Après l'Opécie, il y a eu Le Bal des Peaux, jamais publié aussi.
Jamais publié aussi. Pareil, je me suis dit.
C'était quoi l'histoire?
Ah, je sais même plus. C'était l'histoire d'un prof. Bah, ça devait pas être passionnant. Parce que même moi, j'ai oublié. Autant à l'Opécie, j'ai un souvenir plus. Ouais, c'est l'histoire d'un prof, pareil, qui essaie de retrouver une ex. Il y a toujours des histoires d'ex dans mes histoires. Mais je saurais pas retrouver l'histoire. Mais c'était pas à tel point que... pour la cité de la BD, tu m'as demandé d'amener le manuscrit. Il se trouve que je l'ai gardé. J'ai ouvert au hasard, j'ai lu un paragraphe. Je me suis dit, mais non, c'est horrible. Et là, je comprends les éditeurs qui me l'ont refusé. Ça sert à ça aussi, le seul avantage de l'âge qui passe, enfin du temps qui passe... C'est qu'on on a un petit peu de recul sur ce qu'on fait. Et des fois, je me dis, oh là là, mais comment j'ai pu envoyer ça à des éditeurs, quoi. C'était vraiment très, très mauvais.
Et il t'est pas venu à l'idée de les faire publier aujourd'hui, du coup?
Ah non, quelle horreur. Non, non, non.
Parce que je pense que là, tu as des éditeurs qui seraient d'accord aujourd'hui pour publier ces romans.
Oh, même pas, je te jure. C'était vraiment très, très mauvais. Non, non, non. Alors, des fois, je me dis, moi, j'ai pas l'impression concrète de progresser. Mais en fait, il suffit de regarder des vieux trucs pour s'apercevoir que si, malgré tout, on progresse. Parce que quand je relis ça, je me dis, c'est pas. Non, c'était vraiment pas... Enfin, s'il faut, je relirai les romans d'aujourd'hui en me disant « Oh là là, qu'est-ce que c'était mauvais !» Donc, il y a toujours ce temps de...
Et ceux qui ont été publiés, justement, tu les as relus, Figurec et récemment? Est-ce que tu as vu ton écriture évoluer
Je relis jamais mes romans parce que j'ai un souvenir assez traumatisant. La première fois que j'ai reçu Figurec, donc mon premier roman, j'ai ouvert le carton, ah, super, j'étais surexcité comme un gamin. J'ouvre une page, il y a une faute d'orthographe. Je me dis, mais non, c'était la seule. Après, j'ai tout relu, c'était la seule. Mais je sais pas, symboliquement, j'ouvre le truc, je tombe sur la faute. Et je crois que depuis, je n'ai pas relu, mais bon, parce que le texte, on le travaille tellement avec l'éditeur. Enfin, pour moi, je travaille assez vite. Moi, en 2-3 mois, le roman est écrit, ça va assez vite. Mais après, il y a tellement de retravail avec les différents correcteurs qu'après, je n'ai plus envie de m'y replonger. Donc. Même les BD, je relis rarement ce que j'ai fait. Parce que déjà, quand le roman sort, moi, je suis déjà aux 2/3 du projet d'après, tellement j'enchaîne. Donc, j'aurais l'impression de stagner un petit peu. Et puis, ça fait un petit peu égotiste, enfin, autocentré, je trouve, de relire ses propres livres, non ?
Non ? Il faut aussi t'autocritiquer et progresser comme ça.
Mais... Oui.
Et figurez que, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il sort en 2005 et il a ensuite été adapté en bande dessinée par un autre auteur.
Oui. Il est sorti en 2005, à l'époque, la prestigieuse collection Blanche. Pour moi, c'est un miracle. Je me dis, comment ce truc peut atterrir là ? Et 2 ans après, je crois, il est adapté chez Casterman par Christian de Metter en BD. Donc, le BD me rattrape d'une autre façon. Ouais.
Et t'as pas eu envie, toi, de l'adapter ?
Ah non. De manière générale, moi, j'aime pas revenir sur un truc que j'ai déjà fait. Toujours cette histoire d'excitation et d'aller de l'avant, comme ça. Et même quand mes trucs sont adaptés, que ce soit le discours aux Aïzaï ou au théâtre... Enfin, au cinéma notamment, que ce soit Tirard ou Desagna, les deux m'ont demandé si je voulais pas participer à la coécriture. Mais moi, j'aime pas revenir sur un truc que j'ai déjà fait. Toujours, non, c'est fait quoi. Moi, j'ai fait le livre. Et après, amusez-vous avec ça. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait le livre. Il existe en tant que livre. Ce que ça devient, ça me concerne plus. Vous faites ce que vous voulez.
Oui, parce que là aussi, il y a beaucoup de créateurs ou d'artistes qui veulent garder leur œuvre, demandent un droit de regard sur les films.
Je suis pas attaché à ça. Au contraire, je me dis. Faut pas rester fidèle, quoi. Faut tordre le truc. Moi, j'ai fait le livre, donc je peux être très chipoteur sur le chipoteur. Ça existe ce mot ?
Oui,
ouais, bon, ça existe. Moi, je peux être très freak contrôle sur le livre parce que c'est mon bébé. Mais après, ce que les autres en font, moi, je suis pas attaché. J'ai pas un petit musée de mon œuvre. Une fois que le livre est fait, hop, je suis sur autre chose. Ce que ça devient après en film, en théâtre, c'est pas. Voilà, c'est autre chose.
Il n'y a pas parfois une déception quand tu redécouvres l'adaptation et...
Ah ben ça, je n'ai pas le droit de le dire.
Parce qu'on est entre nous. On a dit qu'on était entre nous.
Ce ne serait pas très diplomate. Non, en général, non. Pour de vrai, il y a de la surprise. Parce que justement, mais voilà, je joue le jeu de « faites ce que vous voulez ». Alors du coup, on peut être surpris. Mais c'est souvent de la surprise assez positive. Dans Zaïzaï, par exemple, il n'y avait pas assez de matière dans la BD pour faire un film. Donc, du coup, le réalisateur a beaucoup écrit et ajouté beaucoup de matière. Donc, forcément, quand j'ai vu le film, pour être honnête, j'ai vu le scénario avant de voir le film. Et quand j'ai lu le scénario, tiens, d'accord, il a ajouté ça. Donc, plus à l'effet de surprise, mais toujours me plaçant à l'extérieur, comme ça. Ok, il fait ça, très bien. Et au final, je trouve que ça fonctionne.
Et comment tu abordes l'écriture justement de chaque style, j'allais dire, de la bande dessinée ou du roman, ou est-ce que tu te mets dans les mêmes dispositions? Alors, faut savoir que Fab Caro n'a pas d'atelier, que tu travailles dans un coin sur la cuisine, de la table de la cuisine. Le matin, tu arrives, tu poses ton ordi et c'est parti. Comment tu abordes l'écriture selon le style du support qui va naître? Est-ce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire tu pars d'une idée d'histoire et t'écris et tu vois ce que ça donne, ou est-ce que dans la construction c'est très différent?
Alors, l'écriture est pas tout à fait la même, enfin, l'approche est pas la même. Dans le roman, alors dans la BD, comme j'ai fait de la BD d'humour, je me dis le minimum syndical, c'est de faire rire. Donc voilà, j'essaie de faire rire. Souvent c'est foiré, mais en tout cas c'est le cahier des charges. Dans le roman, bon, j'espère que ça reste assez drôle, mais c'est pas forcément le cahier des charges. C'est une approche plus sentimentale et plus mélancolique. Bon, j'essaie quand même que ce soit assez drôle, mais l'écriture est pas la même. Mais après, dans la forme, j'ai toujours un petit peu les mêmes rituels. C'est toujours de l'impro. Le point commun des deux supports, c'est toujours de l'improvisation. Moi, je serais incapable de faire un plan comme ça et après de suivre un plan. Toujours ce truc-là, la phobie de l'ennui. Si je faisais un plan et suivre le plan, voilà. Donc je pars sur un truc qui tient sur rien et j'improvise. Que ce soit en BD ou en roman, je fais tout à l'impro. Et après, sur les rituels... le roman, j'essaie de le prendre un petit peu de biais. Oh, je vais pas arriver à expliquer ça. J'essaie de le prendre un petit. J'essaie de pas être trop. Qu'il n'y ait pas trop de rituel pour le roman, parce que le roman, ça peut être quelque chose de très déstabilisant comme ça. Ah, je vais écrire un roman. Tu vois, il y a un truc. Je me mets à ma table et j'écris un roman. Donc, j'essaie toujours de le prendre de manière presque par surprise. Mais ouais, je le vois comme ça. C'est-à-dire que ce soit pas trop ritualisé. Je me mets pas à ma table en me disant, allez, j'avance mon œuvre. Donc voilà, je. Même la position est très relâchée. Tu dis sur sur la table de la cuisine. Non, c'est encore plus, le roman, c'est encore plus relâché que ça. J'ai écrit affalé sur mon canapé. Mais ça a l'air de rien comme ça, mais l'attitude aussi participe aussi de l'approche. C'est-à-dire que si je mettais tout, allez, là mon ordi, mon café, tac-tac, ça peut tétaniser. Alors que des fois, je m'affale sur le canapé avec l'ordi, et ça vient comme ça. Surtout pas ritualiser le truc, parce que ça peut tétaniser le... Là aussi, c'est clair, c'est sûr.
Oui.
Ouais. Bon. Voilà.
Tu ritualises pas, mais tu as quand même un côté, tu t'astreins un peu à des horaires, enfin, tu travailles le matin à 9h, tu te mets au boulot.
Ah oui, là, pour le coup, j'ai pas un rythme très rock'n'roll. Mais c'est un truc que j'ai gardé de... Alors déjà de mes années d'études, je crois, du collège, et puis de mes filles aussi, qu'elles allaient à l'école. À une époque, je gardais mes filles, et elles allaient à l'école de 9h à midi et de 14h à 17h, et au milieu, il fallait que je les fasse manger. Et j'essayais de travailler pendant qu'elles n'étaient pas là. Donc vite, il fallait que je... Et je crois que j'ai conservé ça Donc j'ai conservé un rythme assez scolaire de travail. Je suis incapable de travailler après 18h. Ça fait fainéant comme ça, mais après 18h, ma journée est finie, quoi. Donc ouais, c'est un petit peu immature. Mais j'ai vraiment des horaires très scolaires.
T'as pas de patron, mais t'as des horaires.
Voilà.
Une nouvelle fois, le roman est signé Fabrice Caro. La pochade, on va dire, le roman photo Fab Caro. Comment c'est né, ça, au tout départ, que les BD soient signés Fab Caro et les romans Fabrice Caro? Et pourquoi garder ça, alors que là, j'ai pas fait attention si sur le bandeau, il y a marqué Fab Caro ou Zai 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 Zai, mais souvent...
Non, ça, ils font plus.
Souvent, voilà, à la sortie de Zai Zai Zai, sur les romans retrouvés par l'auteur de Zai 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 Zai. Donc, c'était pas le même nom, puisque tu voulais mettre Fabrice Caro, mais quand même, on se servait du succès de Zai Zai.
Ouais, ça, on pourrait croire que c'est une espèce de recherche de crédibilité, que, ouais. le roman, c'est plus sérieux, il faut mettre le nom sérieux. Non, c'est pas tellement ça. Encore une fois, comme c'est une écriture différente, c'est plus pour le lecteur, en fait. C'est que j'ai pas envie de tromper le lecteur. Quand je fais du Fab Caro, voilà, encore une fois, j'essaie de faire de l'humour, alors autant que possible, mais le but, c'est de faire rire. Et dans le roman, c'est autre chose. Et j'ai pas envie que le lecteur se dise « Ah, ben tiens, un roman de Fab Caro, on va se marrer. » Parce que peut-être pas. Enfin, j'espère qu'un petit peu, mais... voilà, c'est une façon de prévenir le lecteur, plus qu'une schizophrénie. Parce que moi, je raconte finalement toujours les mêmes histoires. Mais c'est pour dire au lecteur... N'allez peut-être pas chercher dans le roman ce que vous trouvez chez Fab Caro. Ça fait bizarre de parler de soi, le schizophrène.
N'allez pas chercher chez Fabrice que vous trouvez chez
Fabrice. Ouais, c'est ça l'idée. N'allez pas chercher dans le roman ce que vous cherchez dans Fab Caro, parce que c'est pas tout à fait pareil. Des fois, j'ai croisé des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai lu le discours, je me suis plus marié à Zai Zai. » Mais je lui dis « Ouais, mais j'ai envie de lui dire, mais c'est normal, c'est pas... Bon, je le dis pas parce que je suis poli, mais... voilà, donc vraiment l'idée de cloisonner, en fait, oui.
Là, je vous assure, vous allez vous marrer en lisant les deux. Je ne sais pas si vous avez encore découvert, mais Samouraï et Guacamole Vaudou. Merci d'avoir participé.
Ben, merci à vous.
À cet échange. Effectivement, tout à l'heure, tu parlais de la Cité, puisque par ailleurs, on est en train de monter une grande exposition sur Fab Caro à la Cité de la Bande Dessinée d'Angoulême, donc pas très loin d'ici, qui ouvrira en juillet. Donc si vous voulez venir la découvrir avec plus d'une centaine de planches, là d'ailleurs aussi pour l'anecdote, quand on est allé voir Fab Caro pour lui demander de nous fournir ses planches de bande dessinée, il nous a absolument donné toutes les planches de tous ses albums. En nous disant, vous en faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. En revanche, les vinyles qui sont à côté, que je vous prête pour illustrer le côté musical de mon œuvre, ça, vous n'avez pas intérêt à les perdre. Donc là, ça montre aussi le rapport que tu entretiens à ton œuvre et à ses objets. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous, et merci à toi.
Merci.